pas écraser l'autre.
Écoute, je crois que ça marche, mais vérifie. Je préfère que tu vérifies.
Oui, ça marche.
Ça marche. Bien. Alors, chers étudiants, bonjour pour cette deuxième séance. On va, si vous voulez, repréciser ce que nous allons faire brièvement. Donc, hier, nous avons posé la question de la construction de notre objet d'étude. La francophonie n'est pas une donnée. Les littératures francophones ne sont pas des données. Il faut construire cet objet d'étude. Nous l'avons évoqué hier. Et ce matin, nous allons commenter un certain nombre de matériaux pour l'analyse. Je ne sais pas si vous êtes allé sur la plateforme, mais vous avez dû voir qu'il y a un grand nombre de documents. Et plutôt que de vous laisser comme ça en aveugle, il convient de vous orienter dans l'identification de ces documents. Et cet après-midi, nous allons donc avoir une séance sur lire et écrire au temps du numérique. Alors, il y a un document, je m'adapte, un document qui va me servir de base cet après-midi. C'est un petit texte que l'on va vous donner d'une collègue qui s'appelle Frédéric Toudoir sur la pierre. C'est un texte tout récent, elle a publié en avril dans un livre consacré aux faits divers, dans la collection Paradoxe aux éditions de Minuit, et c'est sa conclusion sur la lecture aujourd'hui, et je pense que c'est une bonne base pour commencer à réfléchir et à discuter autour de la lecture au temps du numérique. Ça sera cet après-midi. Donc, aujourd'hui, des matériaux pour l'analyse. Mais, comme je vous l'ai indiqué hier, nous essayons de ne pas travailler en cours ni en conférence, mais en séminaire. Donc, plutôt que de commencer à tenir un long discours, c'est à vous que je voudrais donner la parole. Hier, je vous avais suggéré, si vous aviez un peu de temps, de lire pour la séance d'aujourd'hui, la séance 2. Je vous ai donné ces trois textes. Je vous ai attiré votre attention sur ces trois textes. Je pense que ma collègue Timéa Guimési vous les a envoyés par e-mail. Donc, quels sont ces trois textes? Un texte que je trouve d'abord très bien écrit et lumineux de Roland Barthes sur qu'est-ce que c'est qu'un séminaire. Un séminaire, c'est pas un cours. Je m'inspire de cela. Alors, non pas que mes séminaires soient à la hauteur de ceux de Barthes, c'est pas ça, mais d'essayer de créer une atmosphère de réflexion. Tenez, j'en dis un mot. Pour ma part, je ne crois pas à la pensée collective. Je pense que la pensée, elle est individuelle et personnelle. En revanche, un séminaire, c'est l'un des moments où l'on met en partage la pensée. Et donc, la pensée personnelle et la pensée individuelle, elle peut se nourrir de votre pensée, puisque vous la partagez. Vous la partagez, vous la mettez en commun. Mais voyez-vous, nous sommes ce matin 5-9, on peut se tenir les mains, penser très fort, eh bien ça ne produit pas la mise en ligne d'ordinateur. On n'est pas plus puissant quant à la pensée, qu'on se tienne les mains ou qu'on ne se tienne pas les mains. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, c'est une croyance ce que je dis, de mon point de vue, je pense que la pensée est personnelle et individuelle. Mais ce qui est très important, c'est de la mettre en commun, de la mettre en partage. Parce que cette mise en commun, cette mise en partage, nourrit notre propre pensée et elle peut nous faire avancer. Je me permets ici une remarque, puisque globalement ce séminaire s'inscrit dans un ensemble de médiation interculturelle, et que ici il y a des Européens et des Africains. Voyez par exemple, dans la culture africaine subsaharienne, le rapport au savoir est profondément différent du rapport au savoir en Occident. En ce qui nous concerne, non pas depuis tout le temps, quand je dis en ce qui nous concerne, nous les Occidentaux, nous les Européens, non pas depuis tout le temps, mais grosso modo depuis ce qu'on appelle les temps modernes, et notamment au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières, on a considéré que le savoir, il fallait le répandre. Il fallait le répandre le plus possible à l'intérieur de la société. C'est notre démarche. Hein. Les sociétés africaines subsahariennes, dans les sociétés africaines subsahariennes traditionnelles, le savoir ne se partage pas. Le savoir est l'objet d'une initiation. Hein. Si vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas accès au savoir. Donc le rapport est complètement différent. Vous voyez, je suis un sage, je suis un savant, aujourd'hui on dit un sachant, je suis un sachant, eh bien je ne vais pas divulguer mon savoir. Je ne vais le divulguer qu'à des initiés. Hein. Et donc ces initiés d'ailleurs devront subir des rites initiatiques qui constituent des épreuves physiques, etc., etc. Et ces épreuves physiques d'ailleurs correspondent à un moment de l'ascension de leur vie, c'est-à-dire du passage de l'enfance à l'âge adulte. Cette initiation étant valable pour les femmes comme pour les hommes. On est enfant, et il y a une seconde naissance, on devient adulte. Je me permets une remarque, ça signifie que dans les sociétés à initiation, en Afrique, il y a l'enfance, il y a l'âge adulte. L'adolescence, ça n'existe pas. Je me permets d'ailleurs une remarque, en Europe, pendant des siècles et des siècles, l'adolescence n'a pas existé. L'adolescence, c'est une création, grosso modo, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui nous vient, grosso modo, du monde anglo-saxon et du monde, notamment, états-unien. Aujourd'hui, on parle d'adolescents, etc., etc., mais c'est quelque chose qui, y compris en Europe, est un phénomène social tout à fait récent. Dans les sociétés africaines traditionnelles, l'adolescence, ça n'existe pas. On est enfant, on est adulte. Et ce qui marque le passage d'un état à l'autre, c'est l'initiation. Et qu'est-ce que c'est que l'initiation ? C'est que si je suis initié, j'ai eu accès au savoir qui me permet d'être un adulte. Donc par exemple, les hommes, de pouvoir participer à la communauté, au débat, sous le baobab, là où il y a des baobabs, etc., ou bien dans le corps de garde, là où il y a un corps de garde, etc., etc. Bon. Donc, Barthes, le séminaire, un lieu où l'on met en partage. Bon. Deuxième chose, le texte que je trouve vraiment lumineux, très intéressant, Deleuze, littérature et vie, peut-être que vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est vraiment un texte de référence. Et puis, il y avait cet appel à communication, hein, cet appel à communication pour un colloque qui aura lieu en janvier, dans quelques mois, à Lyon, et qui est en plein dans notre sujet du séminaire, cartographie du web littéraire francophone. Bon, voilà ces documents. Je ne sais pas, je ne fais pas un contrôle avec vous, hein, je ne fais pas un contrôle avec vous, peut-être que vous avez eu le temps de les survoler, de les lire, mais là, je me tais et je vous suggère, si vous en avez envie, si vous avez des questions, des remarques, des observations, en rapport avec ces trois documents, eh bien c'est le moment, et j'essaierai d'être réactif et de non pas répondre terme à terme à vos propos, mais de réagir à vos propos. Alors, prends la parole, qui le désire, qui en a envie. Et voilà, et on se retrouve dans l'agencement du cours magistral. Bon, je suis sûr qu'avec mes collègues de Zeged, vous avez l'habitude de parler. Je suis sûr qu'ils vous... Y compris de difficultés, voilà.
Premièrement, c'est très difficile à comprendre. Allez-y. Les phrases très complexes.
Chez Barthes et chez Deleuze.
Oui.
Chez les deux.
Chez Barthes.
Chez Barthes.
Oui. Et pour le mieux comprendre, j'ai fait comme j'ai lu les traduits.
Ah, vous l'avez traduit
en anglais, dans ma tête. Oui.
Dans votre
pour
tête.
Pour mieux comprendre, mais c'est difficile à faire.
Oui, et c'est un gros travail.
Oui.
C'est un gros travail. Bon, alors je vous remercie d'avoir fourni ce gros travail, mais effectivement, je vois que c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de qui, pour vous, vous semble positif?
Je sais pas, peut-être que Bart a écrit que le séminaire, n'a pas quelque chose de très officiel, mais c'est une communication entre deux personnes.
Communication entre deux ou plusieurs personnes. Bon. Si vous me permettez,
je ne suis pas dans une position, hein, en ce qui me concerne, et je ne suis pas dans une position religieuse par rapport à Barthes ou par rapport à Deleuze. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire « lisez Barthes, lisez Deleuze » parce que vous allez trouver réponse à tout. Hein, ça, de mon point de vue, c'est une démarche qui est dogmatique. Bon, Barthes, Deleuze m'aident à penser. Et en ce qui me concerne, pour mille raisons, aujourd'hui, quand j'avais votre âge, non, mais aujourd'hui, je considère que l'effort de penser ne conduit pas forcément, et même, je pense que, dans tous les cas, l'effort de penser n'apporte pas la solution, n'apporte pas la réponse. C'est-à-dire que l'effort de penser apporte des éléments de réponse, mais des éléments qui sont toujours ouverts. Hein, qui sont toujours ouverts. C'est-à-dire que la réponse que nous construisons et que nous élaborons, c'est une réponse qui ne fait pas système. Si elle faisait système, elle serait fermée. On aurait donc la solution. Or, en fait, on a uniquement des éléments de solution. C'est-à-dire que la pensée, c'est non seulement un processus pour élaborer des résultats de pensée, mais la pensée est elle-même un processus, et un processus qui est inachevé. Et donc, en fait, de mon point de vue, je vais plaisanter, mais je vais plaisanter sérieusement, si je suis un sage et si je vous initie à quoi? À vivre sans réponse. Hein? C'est-à-dire sans réponse fermée. Et que, en fait, l'ensemble des questions que l'existence, que les rapports sociaux ou que les textes, l'ensemble des questions qui se posent à nous, eh bien, nous allons vivre avec ces questions sans forcément avoir de réponse fermée, de réponse systémique. Et je trouve que c'est très fécond. C'est pas du tout inquiétant. Hein? Cela ne me plonge pas dans l'intranquillité. Hein? Au contraire. Bon. Et du coup, oui, un séminaire, c'est un moment de processus de la pensée. Hein? C'est une conversation. Oui, monsieur. Ah, ah. Allez-y, allez-y.
C'était un peu ennuyant, c'était trop long.
C'était trop long.
Bon, pas trop long. Pas trop long. C'est-à-dire que, en commençant, parce que moi je le fais ce matin, hier je fais autre chose, je faisais la lecture de l'autre, mais celle de Barthes, je fais le matin. Bon, c'était intéressant par rapport au contenu, au fond du contenu. Les textes étaient très explicatifs par rapport à la quintessence, l'explication du séminaire, la prise en charge, c'est-à-dire sa façon de comprendre les autres, l'acceptation des autres. Bon, bref, moi je fais une lecture, c'est une symbiose entre votre présentation et celle de Barthes. Ça va de pair. Bon, je ne peux pas dire que vous faites copieusement ce qu'il a fait, mais il y a quand même une similitude entre vous et Barthes.
Il y a une inspiration.
C'est dans ce que je suis hier. Voilà. Mais je crois que moi aussi, je suis tombé amoureux de Barthes.
Ah.
Donc, ça me permettra d'aller un peu plus dans ses ouvrages. Il a une manière aussi simple de voir le monde, pour moi.
Alors, bon, merci monsieur, vous m'incitez, voyez, je réagis, c'est ça un séminaire, voyez, c'est ça un séminaire. Monsieur dit quelque chose, je rebondis, je n'ai pas préparé, parce que je ne savais pas qu'il allait parler, je ne savais pas ce qu'il allait dire. Bon, je me permets une chose, je pense que dans l'espace francophone, tiens, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que je suis un Français, et que nous avons un trait culturel, nous les Français, un trait culturel qui nous fait mal voir du reste du monde, et à juste raison, c'est que nous pensons le monde à partir de notre espace culturel. Non seulement nous sommes le centre du monde, hein, mais le monde est autour de nous. Et bien sûr qu'il y a l'espace francophone, tel que nous l'avons décrit hier, mais il n'y a pas que l'espace francophone, et que les enjeux de la pensée ne s'effectuent pas seulement en français. Hein? Aujourd'hui, hier j'ai fait l'éloge des Africains, y compris des Africains du marché, qui sont polyglottes. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous frotter à la pensée des autres. Hein? Et croire que tout se joue au sein de l'espace, l'espace francophone, c'est une grande naïveté. C'est une grande naïveté. Et j'ai envie de vous dire, non seulement il faut se frotter aux autres espaces occidentaux, mais il faut aussi avoir la curiosité, hein, de au moins savoir qu'il y a des espaces non occidentaux et qu'on y pense. Et que peut-être ce serait bien d'avoir une idée de ce qui s'y joue. Alors évidemment, ne soyons pas comme les femmes et les hommes du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de penser qu'une pensée encyclopédique soit possible. Hein, aujourd'hui, prétendre à une connaissance encyclopédique, c'est illusoire, évidemment, mais imaginez que les enjeux de la pensée s'effectuent uniquement en français, c'est naïf et c'est une attitude gauloise, nationalitaire, un peu ridicule. Bon, alors, cela étant, dans l'espace francophone, concernant les études littéraires, l'approche critique, de critique littéraire, je pense que l'apport de Barthes est considérable. L'apport de Barthes est absolument considérable. Je vous invite à vous familiariser avec sa pensée. Grosso modo, je vais caricaturer, je donne quelques éléments. On a l'habitude de dire qu'il y a deux phases chez Barthes, hein, dans sa production. C'est vrai et en même temps c'est plus compliqué que cela. J'ai envie de dire il y a deux périodes, au moins deux périodes, peut-être beaucoup plus. Et il vaudrait mieux penser l'œuvre de Barthes en variation continue plutôt qu'en phase stable et statique. Mais grosso modo, on dit il y a un premier Barthes qui est le Barthes du degré zéro de l'écriture, hein, une phase de remise en cause de l'auteur, d'écriture blanche, d'écriture objective, etc. Et puis une deuxième phase, la phase du plaisir du texte. Hein. On dit il y a ces deux mouvements de bascule, d'abord le degré zéro de l'écriture et ensuite le plaisir du texte. Bon, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Pourquoi ? Parce que ce que je vais formuler comme hypothèse, c'est que je pense que Barthes était un très grand critique et un très grand intellectuel, et que justement, quand on est un grand intellectuel aujourd'hui, on évite de s'enfermer dans le système. Et donc, en fait, la production de la pensée, c'est toujours une rectification des thèses que l'on a énoncées précédemment. C'est-à-dire que, imaginez que depuis ces 20 ans jusqu'à ces 80 ans, on puisse échafauder une architecture conceptuelle, hein, que l'on ne touche pas. C'est à mon avis une niaiserie. C'est-à-dire que, grosso modo, à un moment donné, on énonce des thèses. Ces thèses, on ne les abandonne pas forcément, mais on peut les abandonner. On va les rectifier. Et donc, du coup, on a un flux de pensée. On a justement, bon, là, l'expression, je l'emprunte à Deleuze, quelque chose d'une variation continue. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une épistémée qui parfois reste et souvent reste, mais en même temps, elle va s'incarner dans des formes qui peuvent évoluer parce que on va mettre l'accent sur... à un moment donné, on va mettre l'accent sur un point, et à un autre moment, on va mettre l'accent sur un autre point. Et pourquoi ces variations? Ce que vous avez dit, monsieur, parce que je vais varier dans l'expression de ma pensée, dans la formulation de ma pensée, en fonction de la réaction des autres. Hein? C'est-à-dire, je vais énoncer une idée, vous allez essayer de la réfuter, ou vous allez me contredire, et moi, en fonction de votre réaction, je vais ajuster mon propos. Hein? Donc la question de la reprise de la pensée, du remaniement de la pensée, hein, c'est toujours en fonction des situations. Bon, quoi d'autre? On a parlé de Barthes. Pas d'autre? Ça va? Peut-être pour une première fois, c'est peut-être pas mal, hein, et on peut espérer que cet après-midi, puisqu'on va se revoir cet après-midi, peut-être qu'on continuera, hein, à parler comme ça. C'est peut-être suffisant. Bon. Comment, monsieur ?
On va parler les après-midi, c'est mieux.
Peut-être. Bon, et puis il faut se familiariser, hein. Il faut que vous ayez le sentiment que j'appartiens non pas à la famille, mais que j'appartiens au meuble ici, hein, que je suis, comment dire, une vieille connaissance. Bon, alors, écoutez, nous allons poursuivre, et nous allons poursuivre donc en regardant tout ce que je vous ai apporté. Alors, voyez. Vous avez sur la plateforme un document 1, un document 2, un document 3 et un document, pardon, et un document 4. Je voudrais maintenant que l'on commence par le document 4, documentation 4. Pourquoi ? Parce que dans cette documentation 4, vous avez des choses de nature, enfin de nature, d'importance différente, mais grosso modo, vous avez des textes qui ont une connotation critique. Ce sont des textes critiques. Alors, il y a un texte, quand on s'occupe de francophonie, et quand on s'occupe de francophonie littéraire, et notamment concernant l'Afrique, il y a un texte qu'il faut absolument connaître, c'est celui-ci. Voilà, il va apparaître à l'écran, c'est celui-ci, c'est Orphée Noir de Jean-Paul Sartre. Alors, j'ai la chance, dans ma bibliothèque, d'avoir l'édition originale, et je vous ai scanné l'édition originale de Orphée Noir. Alors, qu'est-ce que c'est que Orphée Noir ? Orphée Noir, c'est une préface. C'est une préface qui a été donnée par Jean-Paul Sartre à une anthologie, l'anthologie de la poésie nègre, d'expression nègre et malgache, et cette anthologie de la poésie a été réunie par Léopold Sédar Senghor au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je me permets donc, en étant très rapide, en étant schématique, de vous dire deux séries de choses. Dans le cadre de la littérature, donc, on va dire en français ou de la littérature francophone africaine, on a un mouvement essentiel, extrêmement important sur le plan historique, qui est le mouvement dit de la négritude. Ce mouvement de la négritude a été fondé par trois poètes, un Guyanais, Léon Gontran Damas, un Martiniquais, Aimé Césaire, et un Sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Oui, je peux le marquer, là-bas. Donc, je vais marquer les noms. Voici. Donc, nous avons Damas, je vous mets les patronymes. Le prénom, c'est Léon Gontran, Damas. Césaire, le prénom, c'est Aimé, et Senghor, le prénom c'est Léopold Sédar Senghor. Trois poètes qui fondent le mouvement de la négritude, et qui fondent ce mouvement de la négritude alors qu'ils sont étudiants, et qu'ils sont étudiants à Paris. Nous sommes juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et juste après. Pour aller vite, si vous voulez, l'acte de fondation de la négritude, s'effectue autour de la publication de trois ouvrages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un manifeste au sens strict. Il n'y a pas une déclaration disant « nous fondons le mouvement de la négritude ». Vous avez trois livres. Trois livres de poésie. Le premier est de Damas. C'est un recueil de poèmes. Il est intitulé Pigment, au pluriel. Pigment. Pigment. Je vous le note. Donc Damas publie Pigment. Césaire va suivre. Il va suivre avec Cahier d'un retour au pays natal. Cahier d'un retour au pays natal. D'ailleurs, Cahier d'un retour au pays natal ne va pas avoir de chance. Il va être publié en revue en septembre 1939. Et donc, septembre 1939, c'est le début de la guerre. En fait, personne ne le lit. La publication passe inaperçue. Le cahier d'un retour au pays natal va être remarqué pendant la guerre parce qu'il va être réédité en édition bilingue, en français et en anglais. Il va être réédité à New York par le très grand éditeur états-unien Brentano. C'est lui qui va rééditer. Il va rééditer, on va dire un mot, avec une préface d'André Breton. C'est donc cette édition, l'édition de pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on va remarquer, alors que l'édition originale, ben les gens pensaient à la guerre et ils n'ont pas du tout remarqué. Et ensuite, on a une interruption. On a une interruption parce qu'il y a la guerre. Senghor est dans l'armée française, il est fait prisonnier, il va être envoyé en Stalag. Hein, donc Stalag, je vous marque, qu'est-ce que c'est ? C'est un camp de prisonniers, Stalag. Il va passer la guerre, donc, comme prisonnier. Stalag. Bon, l'abréviation allemande, Stalag. Attention, ne confondez pas les Stalag, camps de prisonniers, avec les camps de déportation. Pas la même chose. Donc là, les soldats, certes, sont prisonniers, ils sont pas heureux, mais ils sont pas maltraités. Ça n'a rien à voir avec les camps de déportation. Lesquels camps de déportation ? Il y en avait de deux sortes. Camp de déportation et camp d'extermination. Bon. Senghor, au lendemain de la guerre, va publier ses textes. Alors, il publie un recueil poétique. C'est Chant d'ombre. Chant d'ombre, Pigment. Vous voyez, les deux auteurs mettent l'accent sur la couleur, je vais en dire un mot. Et de mon point de vue, le texte de Senghor important pour dire voilà la négritude, c'est son ontologie. C'est son ontologie. Et alors, c'est assez intéressant, l'ontologie est de 47, publiée en 1947, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que Senghor... Bon, ça ne marche pas, je vais en prendre un autre... Senghor, voilà. Il est préfacé par Sartre, Césaire est préfacé par Breton, et Damas a eu une préface d'un autre grand poète français qui va mourir pendant la guerre, c'est Robert Desnos. Robert Desnos. Bon, alors, je me permets une petite remarque, qui n'est pas simplement personnel, mais qui est aussi personnel, c'est que au moment même où la France est à la tête d'un empire colonial, il y a un empire colonial, bien, vous voyez bien que la société française, elle est traversée par des contradictions. Hein ? Elle est traversée par des contradictions, puisque vous avez un certain nombre d'intellectuels français qui apportent leur soutien à des intellectuels, à des écrivains, à des poètes qui viennent des peuples colonisés. En tant que Français, ça me fait plaisir de savoir que je n'appartiens pas à un pays qui à 100% a été colonialiste. Même si, bien évidemment, les anticolonialistes étaient ultra minoritaires. Mais il y en avait. Et pour moi, c'est intéressant de penser l'histoire et de penser l'histoire des peuples et des pays toujours en termes de contradictions. Hein? D'ailleurs, je me permets de dire, en 1933, quand Adolf Hitler et les nazis prennent le pouvoir, certes, ils ont gagné les élections, mais le peuple allemand n'est pas à 100% nazi. D'ailleurs, un grand nombre d'intellectuels allemands va fuir, va quitter l'Allemagne, va choisir l'exil. Ben oui, Voilà pourquoi d'ailleurs vous m'entendez parler de nazis, d'armée nazie, de troupes nazies, de régime nazi, et jamais d'armée allemande. Eh oui, je distingue les choses. Bon. Alors, c'est un mouvement très important, la négriture. Vous verrez, vous lirez. C'est un mouvement très important, je voudrais le caractériser en vous donnant mon avis. C'est un mouvement très important qui, aujourd'hui, peut nous paraître, à nous, femmes et hommes du XXIe siècle, idéologiquement un peu limité. Pourquoi je dis ça? Parce que la négritude, je vais raisonner en termes d'idéologie, moi je l'aperçois comme une fierté. Tiens, tenez, aujourd'hui, partout sur la planète, quand on parle des mœurs, quand on parle des questions d'orientation sexuelle, de genre, eh bien, on va parler, par exemple, de la gay pride, de la fierté gay, de la fierté LGBT. Voilà, je suis homosexuel et j'en suis fier. Eh bien, à bien des égards, la négritude, c'est une fierté. Je suis noir et j'en suis fier. C'est une expression qui vient en réaction à quoi ? Qui vient en réaction au racisme. Vous nous traitez d'afro-noir, je suis gentil quand je dis afro-noir, vous nous traitez de sale nègre, eh bien on est nègre. Et on en est fier. C'est une réaction. Bon, je crois qu'il faut le situer dans ce contexte. Ces auteurs, je les défends. Aujourd'hui, en 2019, je les défends. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile aujourd'hui de dire « c'est bien ce qu'ils ont fait, mais quand même, ils sont restés prisonniers du racialisme. Pourquoi » Pourquoi ? Parce qu'ils ont pensé une entreprise d'émancipation avec les moyens du bord. Ils ont pensé avec les moyens du bord. Et donc, face aux injures qu'ils recevaient, ils se sont emparés de ces injures et ils les ont retournées. Écoutez, qui sommes-nous pour dire que si nous avions été à la place de Damas, de Senghor et de Césaire, qui sommes-nous pour dire que nous aurions mieux fait qu'eux ? Qui sommes-nous ? Vous voyez ? Ben, nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, tiens, leur pensée idéologiquement, pas leur poésie est sublime, mais leur pensée est un peu, en tout cas, discutable. Elle est discutable sur quel point ? Sur la question, vous m'avez entendu, non pas du racisme, du racialisme. Du racialisme. Et vous m'avez entendu hier, vous n'avez pas branché, mais vous m'avez entendu. Je dis, moi je ne suis pas blanc, et madame n'est pas noire. Madame est africaine. Et moi, je suis européen. Et je vous ai dit, je me refuse à penser les humains en termes de couleur. Pourquoi ? Parce que quand on pense, de mon point de vue, quand on pense les humains en termes de couleur, on verse dans le racialisme. Et à partir du racialisme, on est à deux doigts du racisme. On est à deux doigts du racisme, pourquoi ? Parce que racisme et racialisme se fondent sur une démarche qui est une démarche identitaire, et là je sais que je serai en désaccord avec beaucoup d'entre vous, et notamment les Africains. On verse dans une démarche identitaire, et cette démarche identitaire, elle a pour fondement un essentialisme. Les Africains, ils sont comme ça. Les Européens, ils sont comme ça. Tenez, par exemple, nous les Français, qu'est-ce qu'on dit de nos voisins allemands ? Ah, les voisins allemands, ils sont organisés et travailleurs. Bah écoutez, il y a plein d'Allemands pas du tout organisés et extrêmement paresseux. Ils sont pourtant Allemands. Vous allez dire, ah, les Français, ils ont tous une baguette de pain sous le bras et un béret. J'ai pas de béret. Mais j'ai un chapeau. Mais pas de béret. Cette question d'essentialisme, pour moi, elle me paraît extrêmement importante. Mais aujourd'hui, on peut la penser et la déconstruire. Écoutez, il y a 80 ans, ces grands auteurs, ces grands intellectuels, ils ont fait comme ils ont pu. Et donc, ils ont essayé de penser une émancipation des Africains et des Afro-descendants, ils ont essayé de la penser comme ils ont pu. Et c'est vrai que la négritude, c'est un mouvement qui, à bien des égards, est essentialiste. Alors, notamment chez Senghor. Notamment chez Senghor. Alors, pourquoi ce détour ? Ben, je ferai ce détour pour parler de Sartre. Parce que Sartre, il a très bien compris cela. Il a très bien compris cela, et il en était gêné. Et il en était gêné, parce que ça ne correspondait pas à sa philosophie et à ses options politiques. Et ce que j'énonce là est sensible dans sa préface. Parce que, évidemment, quand vous acceptez de donner une préface à un livre, ce n'est pas pour critiquer le livre. Parce que si vous voulez critiquer le livre, vous refusez de donner la préface. Sartre donne la préface au livre préparé par Senghor. Il ne va pas critiquer le livre. Mais en même temps, quand on lit attentivement Orphée Noir, on s'aperçoit que sur le point capital de la négritude, il se démarque. Il ne dit pas qu'il est en désaccord avec Senghor, mais il se démarque. Et il se démarque à propos de quoi ? Ben, du racialisme et du racisme. En disant quoi ? Alors, c'est le Sartre de l'après-Seconde Guerre mondiale qui, sans être marxiste, tient compte du marxisme et dialogue avec le marxisme. Il va employer le terme de dialectique. Il dit la négritude, c'est ce temps, ce mouvement d'un processus dialectique où, face au racisme des blancs contre les noirs opposent quoi ? Un racisme des noirs contre les blancs. Il dit, mais ça, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas grave, ce n'est qu'un temps de la confrontation dialectique. Donc, thèse, antithèse, le racisme blanc, au racisme blanc, j'oppose un racisme noir, ne vous inquiétez pas, la lutte des peuples va faire qu'on va surmonter la contradiction. Ça, c'est l'analyse de Sartre. Et cette analyse de Sartre montre bien que le point de vue de Senghor le gêne. Et le point de vue de Senghor le gêne parce que précisément, Senghor, lui, il parle de nature africaine, d'essence africaine, de culture africaine, d'authenticité africaine, et toute sa vie. Il n'a pas changé. Tenez, d'ailleurs, quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, mes amis africains ou mes amis de la Caraïbe détestaient Senghor. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on parlait de Senghor, ils lui reprochaient quoi ? Senghor a dit « La raison est hélène, donc elle est grecque, l'émotion est nègre. » Et mes amis, hommes et femmes, africains ou afrodescendants, quand j'avais 20 ans, disaient « Quel imbécile d'avoir dit ça ! Quel imbécile !» Sartre le sent en 47. Il le sent. Et ça, pour moi, c'est intéressant pour nous aujourd'hui de voir comment on discute. Et en même temps, vous voyez, je défends Senghor, pas sur son argumentation, mais je défends. Il a fait comme il a pu, cet homme. Il a fait comme il a pu. Vous voyez ? Tenez, si vous me permettez juste une analogie avec laquelle vous pourriez ne pas être d'accord. Moi, je lis Sigmund Freud. Mais j'en fais pas un dieu, Sigmund Freud. Bon, mais je le lis. Bah, vous comprenez bien que tout ce que Sigmund Freud a écrit sur la sexualité des femmes, vous pouvez le jeter à la poubelle. Mais aujourd'hui, faire la critique de Sigmund Freud en disant ce qu'il dit de la sexualité des femmes, c'est idiot, donc Sigmund Freud, c'est idiot, je dis c'est pas juste, il a fait comme il a pu, cet homme. Et pourquoi va-t-il rester ? Pourquoi reste-t-il ? Parce qu'il pose l'existence de l'inconscient. Et ça me paraît infiniment plus positif de retenir quoi ? L'inconscient. L'inconscient. Ben évidemment, ce qu'il dit sur le continent noir, dans le texte de Freud, c'est « black continent ». Le continent noir, c'est-à-dire la sexualité féminine, c'est affligeant de phallocratie. Bon, voilà. Texte important, vous le lirez. C'est un texte, si vous faites des études francophone concernant l'Afrique, c'est un texte qu'il faut absolument connaître. Hein, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ce texte-là. Bon, l'autre texte, je vais aller vite, je ne l'ai pas scanné en entier, mais vous avez des passages significatifs, on en a parlé hier. Il y a une personne parmi vous qui est venue me voir en disant qu'elle était intéressée, c'est la traduction française du livre de Saïd, hein, L'Orient créé par l'Occident, c'est l'édition de poche, j'en ai scanné pas mal, pas tout. C'est vraiment aussi un texte dont vous avez vraiment besoin. C'est un texte que vous devez connaître. Vous voyez, alors bon, vous retournerez sur votre écran d'ordinateur les pages. C'est un texte important. Pour rentrer dans ce texte, peut-être, vous aurez une difficulté, je vous le dis, c'est que Saïd est un érudit. Et il fonde son argumentation sur une connaissance extrêmement précise, notamment de la littérature anglaise. Si vous ne la connaissez pas, vous lisez Saïd en disant bah, « il a peut-être raison, mais je n'en sais rien hein ». C'est peut-être la difficulté pour ceux et celles qui connaissent mal ou qui ne connaissent pas du tout la littérature anglaise. Je vais vous dire, hein, je connais un peu la littérature anglaise, je connais mieux la littérature états-unienne, mais je ne suis pas spécialiste de ces deux littératures, donc je fais confiance à Saïd, parce qu'il me semble savoir très exactement de quoi il parle. Hein. Il parle aussi de la littérature française, mais à un degré moindre. Ce qui me paraît intéressant chez lui, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que l'autre, c'est toujours une invention de soi. Hein? Alors tenez, c'est assez intéressant hein, ce que je dis, enfin me semble-t-il, c'est assez intéressant parce que ce que j'ai évoqué à propos de la négritude c'est un racialisme fondé sur un essentialisme, il y a une essence africaine, une essence européenne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de mon point de vue, il faut revoir totalement les notions d'authenticité et d'identité. Le fond de ma pensée, l'authenticité, ça n'existe pas. C'est une construction idéologique. Et l'identité, c'est un processus idéologique lui aussi, notamment, qui est inachevé. En permanence. Hein? Donc, voyez, aujourd'hui, c'est dans les périodes de crise qu'individuellement et que collectivement, les humains, nous accrochons à des identités. Ce qui aboutit aux guerres, d'ailleurs, hein, quand on s'accroche aux identités, en période de crise. Ou alors, à l'échelle personnelle, quand on s'accroche à une identité, c'est parce qu'on est mal, on est dans un mal-être, et puis, ça peut verser du côté de la psychose, et de la souffrance psychique très grave, hein, quand on s'accroche à une identité. Identité, bien sûr, j'ai mon identité. C'est quoi, mon identité? Vous croyez que je me reconnais aujourd'hui? Hein, aujourd'hui, à 63 ans, vous croyez que je me reconnais aujourd'hui tel que je me reconnaissais quand j'avais 18 ans? Ben, la réponse est non. Hein. La réponse est non. Totalement. Bon. Donc, Saïd, très utile. On en a parlé hier, je n'insiste pas. Je veux commenter avec vous autre chose, c'est ceci, je vous le montre. Je vous en ai scanné aussi des passages importants. Donc, le texte qui, à bien des égards, voilà, le texte qui, à bien des égards, est fondateur des études postcoloniales. C'est un texte qu'il faut connaître, si vous lisez l'anglais en anglais, de préférence, si vous ne lisez pas l'anglais, dans sa traduction française, hein, qui a été publiée aux presses universitaires de Bordeaux, et qu'on trouve facilement, je vous montre l'ensemble de la couverture, voilà. C'est le livre. Je vous montre cette couverture, on en a parlé hier, mais je n'ai pas dit hier quelque chose. Postcolonial. Bon. C'est aujourd'hui un terme utilisé partout, hein, dans les études universitaires, partout. Quand je dis partout, sur la planète entière. Bon, ben quand j'avais votre âge, c'est pas quand même il y a 300 ans, mais quand j'avais votre âge, on ne parlait pas d'études postcoloniales. On ne parlait pas de postcolonialisme. C'est quelque chose qui est apparu récemment. Et donc, justement, cette remarque objective me permet de dire deux, trois choses. Nous avons donc le postcolonialisme, je vais en dire un mot, et nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un ensemble de théories qui nous vient notamment des États-Unis, et cet ensemble de théories, nous l'appelons le décolonialisme, les études décoloniales. Donc aujourd'hui, nous avons des études postcoloniales et des études décoloniales. Et je pense important aujourd'hui de vous donner deux, trois termes pour que vous ne mélangiez pas les choses. Bon. Études postcoloniales. À Timéa, votre département a la chance d'avoir des étudiants extrêmement sérieux. On donne des choses scannées et le lendemain, tout est tiré. Bravo. Merci, madame. Bon, et vous voyez, hein, vous avez de quoi lire. Hein. Bon. Postcolonial. Alors, il y a une erreur à faire. Il y a une erreur à ne pas faire. C'est à mal interpréter le préfixe. Post. Et alors, je vous mets en garde, parce que, y compris dans des livres et des articles sérieux, et même dans des thèses, on commet l'erreur. Très fréquemment. C'est-à-dire de considérer le postcolonialisme et les études postcoloniales d'un point de vue strictement chronologique. C'est ce qui viendrait après la décolonisation. Donc, grosso modo, pour l'Empire colonial français, la fin de l'Empire, c'est 1962. Pourquoi 1962? Avec l'accession de l'Algérie à l'indépendance en juillet 1962. On dit, ça y est, il n'y a plus d'Empire. Bon. Je dois défendre mon pays, en tout cas pas le critiquer. Je ne vais pas dire qu'il nous reste peut-être des miettes de l'Empire colonial aujourd'hui. Ben oui, peut-être, mais je ne le dis pas. Parce que je suis à l'étranger. Et je vais vous dire, et en France, j'aurais dû, si je dis ça, on va me regarder avec de gros yeux. Ben oui, mais la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, hein? Je ne sais pas moi, mais... Ah, c'est la France, monsieur. Ben oui, peut-être. On disait ça de l'Algérie aussi, on disait que c'était la France. Bon, enfin, voilà. Bon, on passe. Je vous mets en garde. Ne pensez pas post-colonialisme et études post-coloniales uniquement par après. C'est une théorie qui me paraît intéressante. Là aussi, je n'en fais pas un dogme, c'est une théorie qui me paraît intéressante. C'est une théorie qui est fondée sur quoi? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Sur l'interaction. Sur, tiens, je lâche le mot, la relation. Sur la relation. Sur la relation. C'est-à-dire que vous avez 20 ans, vous êtes généreux, ce que je vais vous dire peut-être vous froisser. Y compris le rapport de domination. Et souvenez-vous, hier, j'ai utilisé deux termes. D'abord le rapport inégal, l'échange inégal. Ça dure des siècles, hein. Ça dure des siècles, c'est-à-dire que font les Européens? Ils ne cherchent pas à coloniser. Ils créent le long des côtes des comptoirs, et ils font du commerce, et ils font du commerce qui est du vol. Rapport inégal, échange inégal. La colonisation, au sens strict, la colonisation, elle est inséparable de quoi? De la révolution industrielle, donc du capitalisme industriel. La colonisation... C'est à partir du moment où il y a un capitalisme industriel. C'est grosso modo l'affaire du 19e siècle. C'est important ça. Bon. Alors, maintenant qu'on a distingué l'échange inégal, la colonisation, j'énonce cette thèse qui peut nous faire de la peine. Y compris le rapport de domination, c'est un rapport qui suppose une interaction qui suppose une relation. Alors bien sûr, elle est asymétrique. Elle est asymétrique, la relation. Mais il y a une relation. Ça signifie que le rapport de domination, il, si vous me permettez ce mauvais français, correct mais mauvais français, il impacte. C'est-à-dire, il a une influence. Il a un impact sur les colonisés, mais il a aussi un impact sur le colonisateur. Le rapport de domination affecte les deux. Tenez, je vais parler comme Hegel. Le maître et l'esclave. Le maître et l'esclave sont impactés par le rapport de domination. Et du coup, étudier l'empire colonial, étudier la décolonisation, étudier les rapports actuels de néocolonialisme, c'est toujours étudier, non pas d'un point de vue avec un objet extérieur vis-à-vis de l'observateur, mais toujours essayer d'analyser, d'appréhender la relation. Qu'est-ce qui affecte les uns qui sont dominés et qu'est-ce qui affecte les autres qui sont les dominants ? Je trouve que c'est pertinent. Je trouve que c'est pertinent. Ah, tenez, je vous donne, de mon point de vue, un exemple, qui me fait dire que c'est pertinent. Bon, j'ai pas mal voyagé dans ma vie. Pas assez. Mais j'ai pas mal voyagé. Je suis allé dans des pays pauvres, pas seulement en Afrique, hein. Je suis allé dans des pays pauvres. Et puis, je vis en France. Ma compagne est suisse. J'ai travaillé en Allemagne. J'ai travaillé aux États-Unis. Je vous dis, le confort que j'ai en France, c'est la conséquence de quoi ? Mais de la misère du Niger. Si au Niger, il y avait moins de misère, il y aurait un peu plus de difficultés en France. Mais c'est évident. C'est évident. Tous les discours qu'on peut entendre de dire « on va aider au développement de l'Afrique », mais aider au développement de l'Afrique, ça veut dire une remise en question, par exemple, de nos conditions de vie en Europe. Quand je vais en Suisse, si vous allez en Suisse, c'est un très beau pays, hein, très beau pays. Pour parler le mauvais français de la mondialisation aujourd'hui, en Suisse, on est safe and secure. Très bien. Ah, c'est bon. Ben oui, mais c'est une place bancaire mondiale. Et vous croyez que les banques sont généreuses ? Changez d'avis, hein. Très, très vite. Elles se nourrissent de quoi ? Mais de la misère du monde. Et la Suisse est un pays riche où il fait bon vivre, parce que c'est un pays qui vit de la misère du monde. Je trouve que ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est ça, la relation. C'est ça, la relation. Hein ? La relation, c'est cela. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Le décolonialisme, c'est autre chose. Attention, c'est autre chose. Le décolonialisme pose une question qui me paraît juste. La question, c'est de dire, mais aujourd'hui, dans l'espace francophone, ça fait plus de 50 ans qu'il n'y a plus d'empire colonial. Il y a du néocolonialisme. Mais il n'y a plus d'empire colonial. La colonisation, c'est fini. Bon, l'étonnant de ces théories décoloniales pose à mon avis une vraie question. Cette question, c'est de dire, est-ce que l'on a décolonialisé les esprits ? Est-ce que l'on a décolonialisé les esprits ? Et je crois que c'est une vraie question. Je crois que c'est une vraie question parce que vous comprenez bien, en m'écoutant, au ton de ma voix, que je pense qu'on n'a pas décolonialisé les esprits. en aucune façon. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un racisme qui est là. Il y a toujours un racisme qui est là. Il y a toujours des stéréotypes que nous véhiculons. Alors, accordez-moi une chose. Accordez-moi deux temps dans mon discours. Première chose, je ne suis pas de celles et de ceux qui pensent que un jour, il y aura des sociétés humaines sans racisme. Ça, c'est les bisounours qui le pensent. Pourquoi ? Parce que chaque génération reproduit les conditions d'un racisme, pas du racisme, mais d'un racisme. Penser qu'un jour on va éradiquer le racisme de nos sociétés, j'ai envie de vous dire, lisez Freud, lisez Marx, lisez Nietzsche et lisez quelques autres. Et puis ouvrez les yeux et regardez. Donc, une société sans racisme, ça, non. Mais le racisme que l'Europe a nourri, par exemple à l'endroit des Africains, ce racisme, il n'est pas mort. Et qu'il faille, voyez, là je fais mon bricolage, qu'il faille chez les Africains, comme chez les Européens, les Occidentaux, nous décoloniser, ça me paraît juste. Décoloniser l'esprit. Tenez, permettez-moi, je ne vais pas donner plein d'exemples, juste un exemple qui me paraît saillant. Songez à toutes les images, à toutes les représentations qui sont en circulation en Occident, mais aussi en Afrique, aussi dans la Caraïbe, aussi dans les communautés afrodescendantes des pays occidentaux comme le Canada ou les États-Unis. Pensez à toutes les représentations qui touchent aux femmes et aux mâles dans leur vie privée, c'est-à-dire intime et sexuelle. Pensez à toutes ces représentations. Ben, excusez-moi, 99 fois sur 100, ce sont des représentations racistes. Le tempérament ardent des Africains, hommes et femmes, ardent. Tandis que les Blancs, nous serions froids et glacés, avec des bêtises. Plus nous montons en Europe vers la Scandinavie, et plus on est froid. Et plus on descend vers le sud, et plus on s'approche de l'équateur, et alors là, plus on est chaud. Vous m'écoutez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Regardez les clips de rap. Et vous allez voir comment les images stéréotypées se véhiculent. Totalement. Y compris chez les groupes africains ou afrodescendants de rap. Regardez l'image des femmes, les bimbos, etc., etc. Regardez tout ça. On a besoin d'être décolonisé. Bon. Alors, en même temps, je dis attention, donc, une vraie question. On décolonise comment ? Par exemple, en France, je parle de ce que je connais, en France, mais c'est vrai aussi aux États-Unis. Un certain nombre de partisans des études décoloniales, du décolonialisme, moi j'ai envie avec, quand je les connais, quand je parle avec eux, par exemple quand je parle avec mes étudiants africains ou mes étudiants antillais, qui sont plutôt des décoloniaux, je leur dis faites attention. Faites attention à quoi ? À ne pas verser dans un racialisme. Parce que, quand on lit ou quand on entend ce qu'ils disent aujourd'hui, il y a tendanciellement un discours racialiste qui affleure. C'est-à-dire que, par exemple, dans les quartiers populaires français, des intellectuels nous parlent des Blancs. Les Blancs. Parfois, ils vont même jusqu'à parler des Juifs. Et tout ça n'est pas innocent. Donc, je dis oui, la question est vraie. Il faut se décoloniser. Il faut que nous décolonions. Oui, bon, vous m'avez compris. Il faut. Mais comment ? Tenez. Il y a 50 ans, y a 50 ans, 60 ans. Vous prenez aux États-Unis, ça fâche personne. Aux États-Unis, il n'y a pas d'États-Unis ici, ça va, ça fâche personne. Vous prenez le Black Panther Party. Génial, hein, très important, beaucoup de respect pour le Black Panther Party. Mais excusez-moi, quand les blancs racistes états-uniens disent « Negro » ou pire, « Nigger ». Nigger, pire que Negro. Nigger. Bon, racisme total. Et qui lynche des gens, etc., etc. Et que, en face, on dit « Black is beautiful ». Mais, attendez, dire « Black is beautiful », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que si « Black is beautiful », « I am black, I am not », so, « White is ugly ». Pourquoi? White is ugly, because black is beautiful. Si. Vous hochez la tête? Immense écrivain, le roi Jones. Immense écrivain, le roi Jones. Compagnon de route du Black Panther Party. Vous savez qu'il s'est marié deux fois? Vous savez pas? Ah, et vous savez pourquoi il a répudié? Pourquoi? Parce que t'es une blanche. Et que, ah oui, et que quand on était membre du Black Panther Party, on ne pouvait avoir comme compagne ou comme compagnon qu'un frère ou qu'une sœur. On ne pouvait pas. Donc il s'est séparé de sa première épouse. Et sa seconde épouse était une sœur. Excusez-moi, ça ne m'empêche pas de lire le roi John. Mais excusez-moi. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que je suis un humain. J'espère devenir un humain. Bon, voilà. Vous voyez, ça nous a permis de parler de cela. Tenez, nous avons deux amis qui viennent, et deux étudiants qui viennent de ce grand pays africain qui est le Congo. Je ne vais pas dire Kinshasa, mais c'est la République démocratique du Congo. Auparavant, ce fut le Zaïre, c'est-à-dire le pays du fleuve. Le pays du fleuve. Tenez, là aussi, hein, pensons la contradiction. Le pays du fleuve, pourquoi Zaïre? Parce que le dirigeant congolais, Mobutu Sese Seko, voilà, Mobutu, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu africaniser la société congolaise. Et cette africanisation de la société congolaise, elle est passée par différentes choses, les choses les plus voyantes. Les vêtements. Pas de cravate, pas de costume européen, mais l'abacoste. Pourquoi? Abacoste, abat le costume. Abacoste. Plus de prénoms chrétiens. Plus de prénoms chrétiens. On va pas prendre des prénoms africains, parce que prénom ça veut rien dire, on va prendre des noms africains. Tenez, l'un de mes collègues à Brazzaville était Ezaïro. Son prénom à l'état civil, chrétien, Dieudonné. Il ne pouvait pas s'appeler Dieudonné, c'était pas possible ce Mobutu. C'était Kadima. Kadima Nzuzi, il est très connu. Kadima Nzuzi, professeur. Kadima Nzuzi, son prénom, Dieudonné, pas possible. Au nom de l'authenticité, les prénoms. Zaïre, pourquoi? Parce que Nzaïre, le fleuve Congo, immense. Immense. Bon, tenez, je pense à la contradiction. Je vais vous choquer. Mobutu, bon, c'est quand même, il avait sur la conscience d'abord la mort de beaucoup de gens, hein, et notamment du Premier ministre de l'indépendance. Ben, quand même, son ami qui l'a trahi, quand même gênant. Bon, et puis c'était un dictateur, mais Mobutu, qui a régné longtemps, je pense que j'émets une hypothèse. Aujourd'hui au Congo, République démocratique, il y a un sentiment national. qu'on ne trouve pas dans d'autres pays africains, y compris voisins. Il y a un sentiment national. C'est-à-dire, quand on est du Congo-Kinshasa, on a le sentiment, même si on est du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, de dire on appartient à une même nation. Ne me faites pas dire qu'il a fallu 30 ans de dictature pour faire ça. Je dis que pendant les 30 ans de la dictature, il y a un sentiment national qui s'est forgé, qui s'est exprimé par exemple avec le football, avec etc., etc. Voilà, je dis simplement ça. Vous voyez, pensez à la contradiction. Alors, je me permets une chose, c'est un livre qui ne peut pas intéresser tout le monde, mais moi je le donne comme un modèle.
Je l'ai ici avec vous.
Vous l'avez ? Génial. C'est pour moi un livre que je donne vraiment comme un modèle. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas étudier les littératures ou les sociétés en faisant semblant que l'auteur, c'est Dieu le Père, et que dans le texte, il n'apparaît pas. Ce livre a été écrit par un Belge, Van Reybroek, et en fait, tout au long de ce livre, extrêmement bien documenté, sur le plan scientifique, il n'y a rien à lui reprocher, absolument rien à lui reprocher. Van Reybroek apparaît dans le texte, il intervient avec ses doutes, etc., etc. J'ai envie de dire, moi je dis à mes thésards, prenez modèle. C'est-à-dire, arrêtez la fiction de dire, je vous parle de tel auteur, voilà mon corpus, mais alors... pas « je », pas « nous », l'indéterminé, etc., etc. Bon, laissez... Évidemment, ne parlez pas de vous, mais montrez votre cheminement à l'intérieur de la problématique. Ça me paraît vraiment essentiel. C'est un livre que je défends, c'est un livre récent, et vraiment, je le donne comme modèle. Si vous l'avez ici, tant mieux. N'hésitez pas à le passer à vos condisciples. C'est vraiment un livre très important. Vraiment un livre très important. Bon, et puis tenez, alors là c'est comme ça, là, c'est les coquetteries des professeurs, vous savez, les professeurs après un certain âge ils sont un peu iradotes. C'est juste bon, c'est pas terrible, mais c'est juste bon, il y a une écrivaine québécoise, Nelly Arcan. Tiens, en ce moment même à Paris, il y a un colloque international. Il a commencé hier, il se termine aujourd'hui, avec notamment Chloé Delhomme et Camille Laurence qui interviennent ce soir. C'est un Laurie Saint-Martin qui intervient aussi. C'est un colloque sur Nelly Arcan, c'est redécouvrir Nelly Arcan, une écrivaine québécoise un peu importante. Bon, pour mille raisons, d'abord je l'ai un peu connue. Au moment de son décès, les lettres françaises m'ont demandé de faire une notice nécrologique. Donc j'ai fait un tout petit papier, c'était il y a 10 ans, en 2009. Je ne dis pas que c'est un modèle, mais je parle de son œuvre, je parle d'elle, et je parle du rapport que j'ai eu avec elle. Bon, c'est Congo, c'est comme si aujourd'hui... J'avais à réécrire sur Sonny Labutansi, j'ai écrit il y a 20 ans sur lui, mais si j'avais à réécrire aujourd'hui, ben je ferais un peu comme Congo. C'est-à-dire je parlerai de son œuvre, mais je parlerai du rapport que j'avais avec lui et que j'ai encore avec lui. Hein, même si je ne crois pas, pour moi quand on est mort, hein, mais il n'empêche que j'ai un rapport avec lui aujourd'hui. Et je pense que ce serait important aujourd'hui, de le dire. Voilà, mais peut-être que j'ai tort. Attention, vous seriez mes doctorants, je vous dirais, faites attention au jury, hein. On n'aime pas trop ce genre de choses. Hein. Il faut tenir compte aussi. Bon, voilà. Commencez par cette documentation. Je pense que nous pouvons regarder plus rapidement ce que vous allez trouver dans la documentation 3. Je regarde juste l'heure pour savoir où j'en suis. Ouais, ça va, il n'y a pas de problème. Hein? J'ai encore 20 minutes à peu près. 15 minutes ? Ça va aller. Alors, si vous me permettez, puisqu'il me reste 15 minutes, je voudrais les consacrer à ce fichier, Hein? Mais, juste, je vous montre que dans le fichier 1, attendez. Voilà. Dans le fichier 1, il y a 4 textes, et alors merci madame, comme elle les a tirés, je peux les montrer, 4 textes tirés de cet ouvrage, Traversée francophone. En fait, cet ouvrage, c'est un ouvrage de commande qui a été, vous allez sourire, moi ça me fait sourire, qui a été édité à l'occasion du sommet de la francophonie de Montreux. Donc c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui a commandé un ouvrage extrêmement luxueux, qui n'a jamais été vendu, ils ont été distribués, les exemplaires ont été distribués, les fonds étaient là, et il n'empêche que dans cet ouvrage de commande, je trouve qu'il y a des articles qui sont vraiment intéressants. Et donc, notamment ces 4-là, je vous les ai scannés, hein, découvrez-les. Peut-être madame qui vient d'Alouette Souffle va être intéressée par, justement, le 4e article, l'Algérie francophone. Hein, voilà, donc je le situe. C'est un ouvrage collectif qui a été commandé par l'OIF. Donc on pourrait dire, tiens, c'est la voix de son maître. C'est plus compliqué que cela. Hein. Il y a des choses assez intéressantes. Ça, c'est documentation 1. Documentation 2, je vous montre, c'est aussi des textes, voilà, d'un ouvrage. Alors, je vais vous montrer la couverture. Voilà, c'est celui-ci, publié chez Gallimard, sous la direction de Michel Lebris et Jean Rouault, donc pour une littérature monde. J'en dis un mot. Pour une littérature monde, c'est d'abord un manifeste. Un manifeste qui a été signé par une 40aine d'écrivains dits francophones et quelques écrivains français, par exemple, hein, 10 francophones et quelques écrivains français. Ce manifeste pour une littérature monde, quand il a été publié dans le quotidien Le Monde, est apparu comme un brûlot contre la francophonie. De dire, il n'y a pas de littérature francophone. Pourquoi ? Parce que la littérature francophone, c'est en fait le prolongement d'une politique gouvernementale. Nous, écrivains en français, nous voulons une littérature monde. Et ils ont sorti 2 ouvrages collectifs. Ça, c'est le premier. C'est le premier. Pour nous, critiques littéraires, qui nous intéressons à la littérature en français, il faut absolument les connaître. On peut pas faire l'économie de ça. Il faut les connaître. Bon. Et je vous ai scanné les textes qui me semblent les plus intéressants. Alors, les textes qui me paraissent les plus intéressants, c'est le texte d'ouverture de Jean Rouault, qui est là. Il est suivi par le texte de Michel Lebris. Et ensuite, j'ai choisi 3 écrivains, vous les connaissez peut-être, mais 3 écrivains qui, moi, m'inspirent et qui sont vraiment intéressants, c'est, on va dire, celui qui est né au Liban. Il a longtemps vécu au Québec et maintenant il vit en France. C'est Mouawad, homme de théâtre, romancier, poète. Vraiment intéressant. L'haïtien Lionel Trouillot. Et Horner, que vous connaissez pas. Horner qui est israélien. Et qui découvrait son texte. Peut-être, si vous avez un texte à lire, je vous conseille de commencer par ce texte. Il explique pourquoi lui, en tant qu'Israélien, écrire en français, ça l'intéresse. Je crois que c'est ici. Voilà. Voilà. Pourquoi ne pas écrire en français en Israël ? Alors, c'est un texte court et c'est vraiment intéressant. Alors évidemment, hein, ne nous cachons pas, il faut le resituer dans le contexte du conflit palestinien, etc., etc. C'est intéressant. Bon, donc, documentation 1, documentation 2, et les 10 minutes qui nous restent, nous allons les consacrer à la documentation 3, la voici, Alors, évidemment, je n'ai pas fait, je ne prétends pas à l'exhaustivité. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Bon, des auteurs, à mon avis, qu'il faut connaître. Pour ma part, je ne les place pas au même niveau. Mais des auteurs qu'il faut connaître. Alors, d'abord, du point de vue de la pensée, et du point de vue d'une correction de la langue, et d'une correction, c'est-à-dire, quand je dis d'une correction de la langue, de quelqu'un qui est africain, et qui écrit, tenez, si on ne connaît pas son nom, on change les noms, les lieux, etc., on dit c'est un français qui écrit. Et qui écrit très bien. Bon. C'est Albert Memmi. Alors, le juif tunisien. Le juif tunisien. Tenez, vous devez être choqué. Vous dites, tiens, monsieur Devesa dit juif tunisien. Vous devez être choqué. Parce que y a un certain nombre de Tunisiens, ils ont du mal avec Albert Memmi. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas musulman, il était juif. Et aujourd'hui, quand vous allez en Tunisie et que vous parlez d'Albert Memmi, pas tout le monde heureusement, mais vous avez des visages qui se ferment. Pourquoi ? Juif. Alors, surdéterminé par le conflit israélo-arabe, évidemment. Hein, évidemment. Tenez, en Algérie, pardonnez-moi. En Algérie, demandez à mes collègues algériens, aux intellectuels algériens, et Camus. Vous revendiquez Camus ou pas ? Alors, il y en a la majorité. Camus, ah non. Non, Camus, l'étranger. L'arabe est assassiné et il n'a pas de nom. Ce qui a valu le contre-meursault de Kamel Daoud, qui a été présenté comme la réponse à Camus. Contre-meursault. Hein, dans l'étranger, celui qui est assassiné, c'est un arabe. Et on ne connaît pas son nom. Donc on va dire en Algérie, mais Camus était un raciste. D'ailleurs, il l'a dit, hein. À la justice, il préfère sa mère. En pleine guerre d'Algérie, il dit ça. La citation est tronquée. Il le dit, mais c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué que ça. Mais par exemple, en Algérie, Camus. Alors, il y a des Algériens qui disent, mais Camus. Il nous concerne aussi, mais c'est une minorité. En Tunisie, même chose avec Albert Memmi. Et je vais dire, Albert Memmi, c'est la littérature française. C'est comme si... Bon, on verra ça dans déterritorialisation et reterritorialisation. Bon, Chamoiseau, Martiniquais, Texaco, Prix Goncourt, 1984. Il y a des extraits. Ah, Coetzé, savoureux. Savoureux. Je vous conseille, tenez, dans ce fichier-là, s'il y a un texte par lequel vous devez commencer, commencez par celui-ci. Plein d'humour sur la littérature africaine et les romans africains. C'est un dialogue, je vous ai scanné un dialogue. Plein d'humour. Ne vous fâchez pas, hein, parce que vous allez en prendre pour votre grade. Mais c'est plein d'humour. Et quand vous regardez l'humour, vous allez dire, et c'est vrai là, qu'est-ce que je dis sur l'authenticité africaine ? Hein ? Regardez cela. Bon, Confiant. Confiant. Je vous donne un texte en français de Confiant. Une grande partie de son œuvre est en créole. Parce que Raphaël Confiant a opté, alors maintenant il revient à l'écriture en français, mais pendant plus de 20 ans, il considérait que, justement, écrire en français, c'était donner des armes à l'aliénation. C'était écrire en pays dominé et écrire comme un dominé. Et qu'il fallait écrire dans la langue du peuple. Et la langue du peuple, c'est le créole. Bon. Simplement, ça pose plein de problèmes. C'est que le créole qu'écrit Confiant, les créolistes de Guadeloupe ne le comprennent pas. Ne comprennent pas ça, les difficultés. Bon, je vous ai donné un extrait de ce texte qui est co-signé par... de ce texte de Chamoiseau, écrire en pays dominé. Écrire en pays dominé. Bon, Gauze, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Aujourd'hui, l'édition française le pousse, le pousse, le pousse, le pousse, le pousse. Jetez un coup d'œil, c'est son premier livre, Debout payé. C'est un premier livre qui raconte quoi ? Tenez, la nécessité de nous décoloniser l'esprit. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont allés en France ? Parmi vous ? Oui ? Oui ? Vous avez vu les gens qui font la sécurité devant les supermarchés et dans les aéroports ? Est-ce qu'ils sont blancs ? C'est que des Africains ou des Antillais. Et à votre avis, pourquoi ? À votre avis, pourquoi ? D'abord, c'est un sous-métier, mal payé, machin, etc. Il y a le chômage dans les quartiers populaires, etc. Et puis, dans l'image de tout le monde, d'eux, comme de nous, les Noirs, ils sont forts, ils font peur. Alors, on les met à l'entrée pour faire... Mais c'est évident. Hein ? Parce que, tenez, y compris, regardez comment le racisme vient se loger. Regardez le racisme. Tenez, monsieur, regardez comme il est costaud, on va le mettre là. Le petit Français des quartiers populaires... d'origine maghrébine, il va se tenir tranquille, hein ? Ouais, c'est clair. Parce que, pourquoi ? Vous avez besoin de vous décoloniser aussi. Parce que vous croyez que le petit berbère ou que le petit arabe n'est pas plus fort que... Ils peuvent se méfier. Ah, parce qu'il... Vous savez, c'est pas le plus fort qui est le plus dangereux. Mais pourquoi dans la sécurité on va chercher des Africains ou des Afro-descendants ? Parce que c'est l'image. Le noir fait peur. Il fait peur aux Arabes. Même si les Arabes, ensuite, dans le discours, disent « Oula, ben, il fait peur ». Si ces stéréotypes n'étaient pas dans nos têtes, ben, vous auriez des agents de sécurité de toutes les couleurs. Or, principalement, ils sont noirs, les agents de sécurité. C'est pour ça. Regardez ce texte. Bon, Mabankou, aujourd'hui, l'écrivain africain en français qui a le plus grand succès. Et si l'on compare... Si l'on compare, aujourd'hui, alors ma comparaison est un peu idiote, il a plus de succès que Senghor de son vivant. Il a plus de succès que Césaire du vivant de Césaire. Succès énorme. Je vous ai scanné, à mon avis, des extraits de son meilleur livre, Vers cassé. C'est son meilleur livre. Vers cassé, à mon avis, c'est son meilleur livre. Bon, Vers cassé. Nelly Arcan... Un extrait de son deuxième ouvrage, Folle, deuxième ouvrage, Québec. Et puis, Lydie Salver, c'est intéressant de mon point de vue, pour la langue. Regardez le texte de Lydie Salver. Lydie Salver, pour ce livre, Pas pleurer, a eu le prix Goncourt. C'est un extrait de son prix Goncourt. Pourquoi ? Pour la langue. On en dira un mot. Lydie Salver est d'origine espagnole. Et c'est un livre dans lequel elle évoque la guerre d'Espagne et sa famille. Et elle fait parler les personnages dans le mauvais français dans lequel retentit du castillan. Et là, il y a un travail sur la langue. Bon. C'est pour ça que je voulais scanner. Bon, Solibo, c'est Solibo le Magnifique, et un extrait de Texaco. Pas une anthologie, pas les livres... incontournable, un florilège pour pouvoir illustrer mon propos sur ce qu'on verra plus tard dans les prochaines séances, c'est-à-dire demain et jeudi. Pour moi, la littérature francophone de demain, ce sera une littérature francophone qui va procéder à un usage minoré du français. Pourquoi ? Ça sera le mot de la fin. Je pense que les écrivains francophones ont intérêt à minorer le français. Pourquoi ? Parce que je suis de celles et de ceux qui pensent que, quelle que soit l'appartenance culturelle de l'écrivain, un écrivain qui a l'ambition de produire une œuvre qui soit demain considérée comme une grande œuvre, cet écrivain-là, il n'a pas d'autre choix que de produire son œuvre contre la langue. Contre la langue. Et je pense que, y compris les écrivains français qui ont l'ambition que leur livre passe à la postérité, ils doivent écrire leur livre contre la langue de leurs parents, c'est-à-dire contre le français. Ils doivent, eux aussi,
trouver les voies et moyens de minorer le français qu'ils parlent et qu'ils écrivent. Parce que autrement, ben, nous sommes dans l'expression, nous sommes dans l'habillement belles lettres d'un discours, mais on n'est pas dans l'écriture. Voilà. Je crois que je suis dans les clous.
Oui, absolument.
Eh bien, merci, et je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous.